Berlin.
It's Morning Edition from NPR News.
Let's see things on people house.
France Inter, le 18.
Ce soir, deux témoignages, deux femmes et un dilemme. Vous allez faire connaissance en ce 8 mars avec deux Ukrainiennes. L'une est documentariste, elle est restée en France, elle lutte à sa manière, notamment en contrant la propagande russe. L'autre était juriste dans l'Est de la France il y a encore deux semaines. Aujourd'hui, elle est à Kiev, elle soigne, elle forme au premier geste au milieu de la guerre et elles sont étonnantes l'une comme l'autre. Le bruit du monde ce soir et désormais chaque soir, ce sont les notes vocales que de jeunes Ukrainiens envoient à Caroline Gillet grâce à leur téléphone portable. Vous ferez connaissance ce soir avec Oleg et vous retrouverez Olga dont on suit le parcours depuis plusieurs jours. Le bruit du monde, la suite sous les radars dans l'actualité internationale qui tourne encore. Sébastien Nogeny a trouvé des manifestations contre la vie chère au Maroc, les Philippines qui modifient la loi sur le consentement sexuel et le Mexique confronté une fois de plus à la violence dans les stades. 18h50, passons genre dans le monde et des femmes étonnantes. Encore une fois que Julia Foy se mettra à l'honneur. Miss Ukraine qui a pris les armes et une mamie russe incroyablement courageuse. 18h55, c'est le monde d'après de Cyril Sauvageau ou comment la guerre impacte aussi les réunions sur le nucléaire iranien. Le monde est vaste, la guerre est à nos portes et on n'a qu'une heure. Bonsoir.
Fabienne Sintès. Un jour dans le monde.
Deux femmes donc avec nous ce soir, deux Ukrainiennes qui sont utiles à leur pays, qui tenaient tellement à l'être, chacune à leur manière. Mais au fond, il y a beaucoup en commun entre ces deux-là. Je vous présente d'abord la première. Bonsoir Masha Kondakova.
Bonsoir.
Merci beaucoup d'être avec nous Masha. Vous êtes documentariste. Votre film Inner War est toujours visible sur le site d'Arte. Vous avez filmé des femmes sur le front de la guerre du Donbass. Et c'est vous qu'on voulait entendre en ce 8 mars parce que, justement, vous filmiez des femmes dans cette guerre-là. Aujourd'hui, est-ce que vous avez encore le sentiment qu'elles sont en partie le visage de cette guerre en Ukraine ?
Bien sûr, de plus en plus, les femmes sont tellement courageuses, bien sûr, selon leurs compétences, et elles participent, elles contribuent à la guerre pour défendre leur famille, leurs enfants, la liberté et notre patrie.
C'est même la femme, d'ailleurs, du président Zelensky, Masha Kondakova, qui disait tout récemment notre résistance à un visage particulièrement féminin. D'abord, est-ce que c'était important qu'elle le dise, elle ? Est-ce que c'est aussi, encore une fois, ce que vous constatez ?
Bah oui, parce que moi j'ai mes amis en Ukraine à Kiev avec qui j'étais à l'université ensemble. Par exemple, mon amie est une actrice qui vient de signer le contrat avec l'armée. Elle apprend comment donner le premier secours, d'être une infirmière militaire, donc ASAP Medic. Et bien sûr, parce que aujourd'hui tout le monde s'est réuni pour combattre contre Poutine, contre son invasion, agression et le massacre qu'il essaie de mettre partout en Ukraine. Et effectivement, avant, c'était pas vraiment le cas. Mmh. C'était assez rare de voir les femmes sur la ligne de front. Mais aujourd'hui, c'est de plus en plus le cas. Et je pense que c'est pour ça que la première dame, elle a dit ça, elle a souligné ça parce que ça demande énorme courage d'aller à la guerre et défendre avec l'arme.
Oui, ça demande un courage énorme. Masha Kondakova, d'ailleurs, dans votre film, vous le soulignez, à un moment, vous parlez d'un pays macho qu'est l'Ukraine. Est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui que ces frontières de genre, au milieu de la guerre dans laquelle évidemment tout le monde est plongé, que toutes ces frontières-là se sont effacées ? J'ajoute qu'on peut faire son service militaire en Ukraine depuis récemment quand on est une femme, et ça change beaucoup de choses.
Tout à fait, ça a été approuvé en décembre 2021, que désormais toutes les femmes qui le souhaitent, elles pourraient s'inscrire et faire le service militaire. Mais bien sûr, c'est notre héritage, notre pays, il est assez patriarcal, mais je peux vous dire qu'aujourd'hui, encore une fois, en tout cas dans mon entourage, il n'y a pas du tout ce sentiment de discrimination. Après, si on part un peu plus loin dans la hiérarchie en armée, c'est possible qu'il y a encore un petit mouvement c'est seulement notre réflexe qui était depuis des années à protéger les femmes. Les femmes ne devraient pas vraiment avec l'arme, mais je peux vous dire que je vois de plus en plus les photos de jeunes femmes qui aujourd'hui manifestent et se mobilisent absolument avec toutes les valeurs d'une féministe, sans même parler, mais plutôt en faisant de l'action. Donc je pense que non, aujourd'hui tout dépend de compétences. Si on est capable de faire et si on sait comment le faire, évidemment on peut prendre l'arme et aller dans le, à la ligne de front, vraiment combattre dans les batailles qui sont aujourd'hui très 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 dangereuses et absolument injustes. Et comme vous savez, c'est les Russes, troupes de Poutine, ils tirent même sur les civils, ce qui est un crime militaire. Et j'espère qu'un jour ça va être jugé et j'espère que ça, très bientôt.
Votre famille, Masha Kondakova, on va expliquer dans un instant pourquoi vous avez fait le choix pour l'instant, vous, de rester en France. Votre famille s'est séparée. Au fond, certains sont rentrés, certaines sont avec vous maintenant, votre mère et votre sœur, je crois. D'autres ont décidé de rester.
Oui. Tout à fait, oui. En décembre, j'ai promis à ma mère que ses 70 ans, elle va fêter à Paris. Seulement, je devrais obtenir mon diplôme, un master 2 à la Sorbonne. Mais son anniversaire, c'est aujourd'hui. Et donc, j'ai tenu la parole et maintenant elle est à Paris avec moi. Donc, je voudrais remercier vraiment à tous les citoyens français qui nous aident aujourd'hui, qui nous avec nous et pas seulement avec nous, qui aident à sauver la vie aux femmes avec leurs enfants. Mon père, il est resté à Kiev, c'est le professeur physicien, et ma marraine et ma tante aussi. Ils sont à Kiev.
Votre père est physicien, effectivement, professeur d'université. Il a 70 ans. J'imagine que quand on est physicien et prof d'université, on n'imaginait pas qu'on allait prendre les armes et se battre à Kiev avec, vous le disiez, votre marraine et d'autres membres de votre famille.
C'est même aujourd'hui, parfois, je n'arrive pas à y croire ce qui se passe. Je n'arrive pas à prononcer que ma mère aujourd'hui a une statue réfugiée de la guerre. Je n'arrive pas à comprendre que mon père aujourd'hui va protéger et défendre Kiev, la ville dans laquelle je suis née, je suis grandie, j'ai obtenu mon master, j'étais éduquée là-bas, élevée. Et ma marraine qui a dit à un moment, je m'en fous si un char va passer à côté dans son jardin, il va jeter un cocktail Molotov et tout. C'est honnêtement, c'est très compliqué à croire, mais j'adore l'esprit dans lequel ils sont. On est imbattable. Et c'est pour ça que merci beaucoup pour tous les citoyens, pour tous les politiciens qui nous aident aujourd'hui, parce que c'est indispensable. Il faut arrêter ce criminel Poutine. Il faut arrêter parce que je ne veux pas prononcer ces paroles, mais au mauvais scénario, je suis pas sûre qu'il va s'arrêter en Ukraine. Et ce n'est pas que seulement mon avis.
Est-ce que vous dites que vous remerciez la France et les pays européens? Est-ce que vous avez le sentiment que tout est fait pour vous aider? Est-ce que vous avez aussi une forme de frustration en vous disant il faut aller plus loin, il faut plus de sanctions, il faut plus d'actions, peut-être même une aide qui serait plus militaire? Est-ce que ça vous traverse l'esprit, ça, ou pas?
Déjà, je ne juge pas. Personne ne savait comment agir dans cette situation. Personne n'a cru que Kiev, Lviv et toutes les autres villes avec les citoyens civils seront bombardés. Donc, on agit comme on peut. Évidemment, on aimerait, ça serait génial si on peut fermer le ciel parce que sur la terre, les Ukrainiens peuvent se battre et se défendre. Mais au niveau de aérien, c'est très très compliqué. Après, on comprend les conséquences. Donc, je suis complètement. Je sais que c'est un énorme sacrifice que aujourd'hui des gens de pays occidentaux et de l'autre côté de la planète, je veux dire les États-Unis qui font pour, par exemple, faire les sanctions pour couper l'accès et l'utilisation de gaz, de l'essence, de pétrole. Je sais quelles sont les conséquences. Mais comprenez aussi que les Ukrainiens, aujourd'hui, ils défendent chaque kilomètre de la patrie, de la liberté aussi, avec des vies de jeunes soldats. Mais encore une fois, si Poutine, il a déjà osé de menacer le monde entier en disant par rapport de l'arme nucléaire qu'il a. Vous savez très bien qu'en Ukraine, il y a 15 réacteurs nucléaires et une station à Zaporizhzhia, du plus grande en Europe, dans une situation très, très, très compliquée, occupée par les Russes. Et c'est très chaud et dangereux. Donc, encore une fois, il faut qu'on soit unis, il faut qu'on continue à chercher les solutions, les alternatives, et il faut qu'on continue cette démarche d'aide, parce qu'aujourd'hui, une petite aide peut sauver la vie, mais évidemment, les sanctions et tous les sacrifices que nous faisons aujourd'hui, c'est indispensable, et il faut arrêter je sais pas, je trouve pas mes paroles, ce barbare, ce criminel, il faut l'arrêter à tout prix, parce qu'il va pas s'arrêter sur l'Ukraine.
Masha Kondakova, vous êtes documentariste, votre caméra, comme beaucoup de documentaristes, est un peu le prolongement de votre bras, vous êtes une femme courageuse parce que vous aviez été blessée au Donbass. Vous avez un moment imaginé que vous alliez rentrer avec votre caméra, finalement, vous vous sentez plus utile en France. Est-ce que ça a été un choix compliqué dans votre tête?
Oui, bien sûr, tout à fait. Et je n'ai pas encore complètement décidé si je ne reviens pas. Grâce à vous, et merci beaucoup de m'avoir invité, parce que je porte la parole de ma famille, de mes amis qui sont à Kiev. Je peux parler du côté humain. Encore une fois, je ne suis pas une politicienne, je suis seulement une cinéaste, une humaine qui veut la paix au monde entier. Personne ne veut la guerre. Moi, nous attaquons personne. C'est Poutine qui nous attaque. Donc, je veux dire que on a pas peur. On a l'esprit combattant. On est tous unis et on va aller jusqu'au dernier occupant russe. Donc, ce n'est que la question du temps. Moi, je suis ici encore une fois. Merci beaucoup de m'avoir invité pour parler de cette situation. Et oui, effectivement, je me sens utile parce que je peux transmettre l'information brute de première personne.
Et on est ravis de vous entendre, Masha Kondakova. Restez avec nous. Je voudrais vous présenter quelqu'un qui s'appelle Sonia. Bonsoir, Sonia.
Bonsoir.
Bonsoir, merci beaucoup d'être avec nous. Sonia, c'est votre nom de guerre, parce qu'il faut vous mettre à l'abri. Et je le disais, il y a des décisions qui sont prises par tous les Ukrainiens aujourd'hui. Vous, il y a un peu plus d'une semaine, vous étiez juriste dans l'Est de la France. Désormais, vous êtes soldate à Kiev. Comment elle s'est passée, cette décision-là? Et qu'est-ce que vous faites aujourd'hui, Sonia?
Tout d'abord, merci beaucoup de m'avoir invité. Merci beaucoup de cet intérêt, de ce soutien. Oui, c'est vrai, j'avais été il y a un peu près d'une semaine, j'avais été en France et maintenant je suis ici. J'avais été formée en tant que en médecine tactique, en paramédecine. C'est pour ça que en fait j'avais pris cette décision de rentrer en Ukraine et de rejoindre les régiments de la défense territoriale, des forces de défense territoriale. Par contre, à vrai dire, il n'y avait pas de ce moment de choix, de cette décision, parce que le 24 février, dès que j'avais su que la Russie avait lancé la guerre contre l'Ukraine, dès que ma mère m'avait appelé en disant qu'il y avait des bombardements de ma ville natale, de la capitale de Kiev, la décision avait été déjà prise. Donc, pour moi, la seule chose qui me restait, c'était de décider comment je pouvais me rendre en Ukraine quand les aéroports étaient déjà fermés. Donc, c'était vraiment un moment sur le coup quand j'ai décidé.
Ça veut dire qu'il n'y a pas de billet retour, Sonia. Pour l'instant, vous êtes là où vous êtes et vous ne savez évidemment pas quand vous rentrerez. Vous n'avez aucune intention que ce passage soit provisoire. Ça veut dire que vous restez jusqu'à la fin de la guerre.
Oui, tout à fait. J'aimerais bien un jour, quand il y a la paix dans notre pays, j'aimerais bien revenir en France. Je n'ai pas définitivement quitté ni mon travail, ni mon appartement, en effet rien, parce que j'aime bien habiter et travailler en France. Par contre, maintenant, je suis soldat dans de nos régiments. Si je occupais 100% en tant que paramédecin, je donne des formations aux soldats. Je fais ces formations pour que les soldats apprennent comment sauver leur vie, comment utiliser les outils de premier secours. Moi aussi, je suis prête à traiter les blessés, à aider les soldats au cas de combat. En fait, c'est la tâche principale dans médecin militaire. Voilà, je suis là, il n'y a aucune intention de ma part de quitter l'armée pour l'instant.
Comment ont réagi autour de vous, vos amis, les Ukrainiens comme les Français? Est-ce que vous avez le sentiment d'être parti aussi entouré non seulement de leur approbation, mais de leurs encouragements, les Ukrainiens comme les Français?
Oui, c'est vrai que j'ai ressenti beaucoup de soutien de la part de tous mes amis, tous les gens qui me connaissent. Ils m'écrivent, ils m'appellent. Il y a énormément de soutien de la part de tous mes amis en Ukraine, mais aussi en France et un peu partout dans le monde entier. En Ukraine, en fait, l'esprit est vraiment très, très élevé. Quand j'étais là, quand je suis arrivée, quand je me suis rendue au centre d'inscription à la défense territoriale, il y avait des files énormes, il y avait énormément de monde, beaucoup d'hommes, de femmes qui faisaient des files pour s'inscrire dans les forces. Et moi, c'était seulement parce que j'ai cette formation paramédicale, parce que c'est vraiment nécessaire que j'ai pu, que j'ai réussi à m'inscrire. Et le soutien que je ressentis est vraiment, vraiment énorme. C'est vraiment quelque chose qui m'aide beaucoup.
Merci beaucoup, Sonia. Merci vraiment. On salue votre courage. Soyez prudente. On salue aussi le courage et le travail de Masha Kondakova qu'on a eu juste avant vous. Et Sonia, on la retrouvera d'ailleurs dans les notes vocales de Caroline Gillet tout au cours de cette semaine et peut-être des précédentes. Merci vraiment beaucoup à toutes les deux.
Le 18-20, Fabienne Synthèse. Sur France Inter.
La suite ce soir, ce sont les notes vocales de Caroline Gillet. Justement, vous aurez des nouvelles d'Olga, qu'on suit depuis un petit moment, et puis d'Oleg aussi ce soir. Et puis pour aller jusqu'à 19h sous les radars, Sébastien Logeni.
Les Philippines ont décidé de porter l'âge du consentement sexuel à 16 ans pour lutter contre le viol et les abus. C'était 12 ans depuis près d'un siècle.
Passons genre dans le monde. Julia Foyce en ce 8 mars, spéciale femmes ukrainiennes. Pas seulement d'ailleurs.
Pas seulement, des combattantes, et des résistantes côté russe et côté ukrainien.
Le monde d'après, Cyril Sauvageau. Bonsoir à vous, Cyril.
Bonsoir. Un accord imminent, sans doute, sur le nucléaire iranien, sauf à ce que la Russie fasse capoter les négociations. C'est possible.
Restez avec nous. Le tour de la planète continue. Il tourne forcément autour de l'Ukraine. Et Djoubaka a été chercher l'un des groupes, un groupe 100% ukrainien. Laissez-moi prendre mon élan. Vlopi Dito Plia Sova. Je m'en excuse à l'avance. Ça s'appelle Vesna, c'est le titre.
Чати зірочки, зазирать, як падають, ловити ячменями. Наберу у пазуху оцих бризок вовників. Затанцюю радісний, зрадію до смерті. Наберусь на райду, возлечу папі.
Et le bruit du monde, c'est toujours celui de l'Ukraine et de la guerre ce soir. Bonsoir Caroline Gillet.
Bonsoir Fabienne.
Vous nous emmenez en Ukraine, écoutez ceux dont la vie a basculé depuis jeudi dernier. Vous leur avez proposé de s'enregistrer avec leur téléphone portable, d'envoyer le récit de leur quotidien. Et c'est ce qu'ils font très courageusement et très régulièrement. On commence à l'ouest de l'Ukraine, à Ivano-Frankivsk. Et c'est là qu'on retrouve Olga.
Olga, c'est ça. Ceux qui nous écoutent ici régulièrement, et on les salue, se souviendront peut-être d'elle. Elle racontait sa fuite de Kiev avec son enfant d'un an, une partie de sa famille avec un chat et avec un écureuil. Elle s'est mise dès son arrivée à Ivano-Frankivsk à participer à l'effort de guerre en reprisant des uniformes militaires. C'est là aussi qu'un soir, dans une église, elle a enregistré ses chants pour la paix qu'on entend. Alors pendant un moment, Olga n'a plus rien envoyé. Et puis avant-hier, j'ai reçu ce message de sa part.
Bonjour Caroline, j'ai pas eu trop de temps hier pour te répondre. Mon mari, mon frère ont allé s'enregistrer dans le centre militaire d'Ivano-Frankivsk puisqu'ils demandent que tout le monde s'enregistre. Avant, je me sentais assez tranquille et assez forte. Là, maintenant, je commence à penser que peut-être il va partir se battre, ce qui est en même temps normal parce que les hommes protègent son pays et ce sont les hommes héroïques qui sont là maintenant. Mais quand je commence à imaginer qu'on reste le deux avec mon fils, je commence à pleurer, quoi. Et après, même avant la guerre, je me disais que j'irais pas partir d'Ukraine, je vais rester quoi que ce soit. Hier, j'ai commencé à réfléchir à la possibilité d'aller en Suisse chez mes amis très proches, qui nous invitent chaque jour, trois fois par jour. Peut-être pour nous et pour Platon, pour mon fils, ce sera plus rassurant s'il part. Dis-moi, mon mari, je sais pas.
On continuera à prendre des nouvelles d'Olga. Et pendant ce temps-là, à Kiev, Oleg se pose ces mêmes questions, partir ou rester. Voilà des extraits de messages reçus de sa part depuis le début de conflit et jusqu'à hier soir.
Ce matin, il a neigé. La neige fond petit à petit. Hier et encore aujourd'hui, j'ai fortement conseillé à mes amis qui ont des enfants de quitter Kiev. Parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui va nous attendre dans les prochains jours. C'est le premier jour du printemps et ce n'est pas aussi joyeux que d'habitude. Aujourd'hui, c'est le 2 mars. Je suis toujours à Kiev, bien qu'il y a tous les jours des signaux qu'il faut partir, que Kiev sera encerclé du jour au lendemain. J'ai téléchargé une application où on te prévient d'une attaque aérienne. J'ai calculé hier, il y en avait 35 au total, en 18 heures. Aujourd'hui, je suis allé avec une voisine pour l'aider à trouver de l'essence. On a fait quelques tours de la ville pour trouver une station d'essence avec une heure de queue. On a réussi à trouver de l'essence. On peut acheter 25 litres en une fois, pas plus. De plus en plus, je lis sur Facebook que mes amis sont partis. Moi, j'ai pris la décision de rester quand même jusqu'au moment où ça devient vraiment difficile. J'espère que ce ne sera pas le cas. Là, je viens de sortir de chez moi. Je dois constater que quelques petites épiceries sont ouvertes. En passant par les gens dans la rue, je vois que tout le monde se regarde parce qu'il y a vraiment très peu de gens. Il y a une certaine solidarité qui n'est pas verbalisée, mais quand même qui est très ressentie très loin. Je vois deux colonnes de fumée. On entend l'artillerie. Et à 10 mètres de moi, il y a des enfants qui continuent à jouer sur le terrain de jeu. C'est surréaliste. En passant par l'église, j'ai vu aussi que la cathédrale Saint-Vladimir est ouverte aujourd'hui. Donc on peut dire que les gens s'habituent à tout et Kiev résiste.
Étonnant, hein, le silence après Oleg, c'est encore du Oleg, comme on dit. Merci beaucoup Caroline, vraiment, merci à eux deux surtout. On va prendre de leurs nouvelles régulièrement et on se retrouve ici même évidemment demain.
Demain, voilà, c'est ça, absolument. Demain, merci.
Caroline Gillet, merci beaucoup. Et sous les radars, Sébastien Legénis, qu'on entend là, qui nous sort intégralement d'Ukraine, c'était il y a 2 semaines dans les rues de Rabat, au Maroc, des manifestations contre la vie chère. Depuis, la situation n'a fait qu'empirer.
Oui, ce n'est pas la guerre en Ukraine, évidemment, qui va apaiser la situation. L'inflation au Maroc ne cesse de grignoter le pouvoir d'achat des Marocains depuis des mois. Alors que le salaire minimum est de 240 euros par mois, tous les prix montent, plus 14% pour l'eau minérale en quelques mois, plus 5% pour l'huile, plus 6% pour la farine, en cause la flambée des coûts du transport à cause du pétrole plus cher et une sécheresse qui frappe gravement le Maroc. Résultat, le spectre de la contestation sociale ressurgit, bagarre sur des marchés, sit-in dans plusieurs villes à l'initiative des syndicats, manifestations de rue à Casablanca, Tanger ou Rabat et grève des chauffeurs routiers depuis hier. La tension, clairement, est montée d'un cran depuis un mois. Ce syndicaliste manifestait le 20 février dernier dans les rues de la capitale marocaine. Nous disons à l'État du Maroc, arrêtez la politique impopulaire qui cible les poches des Marocains. En clair, les Marocains demandent un plafonnement des prix, des boucliers tarifaires comme en France. Le tout nouveau Premier ministre marocain Aziz Akanouche est la cible directe des accusations. Un hashtag Akanouche dégage commence à fleurir sur les réseaux, mais sa marge de manœuvre est très faible. Depuis l'an 2000, le Maroc s'est lancé dans une libéralisation des prix tous azimuts sous l'œil du FMI. Pas question donc de revenir sur ces réformes pour le moment.
Et direction les Philippines qui viennent de modifier la loi sur le consentement sexuel.
Oui, ce pays à majorité catholique profondément religieux avait une des législations les plus rétrogrades au monde. La loi datait de 1930, il y a près d'un siècle, et permettait aux adultes d'avoir des relations sexuelles avec des enfants à partir de l'âge de 12 ans. La loi a donc changé depuis hier, validée par le président Duterte. L'âge du consentement légal est désormais de 16 ans, à l'exception des couples d'adolescents. Le détournement de mineurs sera passible au maximum de 40 ans de prison. Une décision historique saluée par toutes les ONG qui va permettre de mieux protéger les mineurs contre le viol et les abus. Selon une étude nationale, un enfant philippin sur 5, âgé de 13 à 17 ans, a déjà subi des violences sexuelles. Cette jeune mère de famille que l'on entend a eu son premier rapport sexuel à l'âge de 13 ans avec un homme 2 fois plus âgée qu'elle. Je ne connaissais rien, dit-elle, à la sexualité. J'étais une enfant. Je ne savais pas ce qui se passait. J'avais consommé de l'alcool. J'ai eu un bébé après. Je regrette maintenant. Je voudrais revenir en arrière. C'était très bien qu'ils aient changé la loi. On ne peut pas décider quand on est un enfant. Voilà, la question c'est maintenant l'application réelle de cette loi. En janvier, le président philippin a aussi interdit le mariage des enfants, mais une jeune femme philippine sur 6, il faut le savoir, se marie encore avant l'âge de 18 ans.
Et puis le Mexique, Sébastien, à nouveau confronté à des violences dans les stades de football.
C'était le week-end dernier, samedi 5 mars, 14 000 personnes réunies au stade de Querétaro pour un match opposant les Gallos Blancos aux Zorros d'Atlas. À la 63e minute, les supporters des deux équipes commencent à s'affronter dans les tribunes sous l'œil des caméras des télévisions mexicaines.
El 5 de marzo del 2022.
Voilà, c'est une vraie bataille rangée entre supporters qui va se dérouler sous les yeux de tout le pays. La pelouse envahie, des familles obligées de quitter le stade avec leurs enfants et surtout des violences qui vont faire 26 blessés, 26 personnes hospitalisées, aucun mort, contrairement aux premières rumeurs. Depuis 3 jours, le Mexique ne parle que de ça. La Ligue mexicaine de foot doit se réunir aujourd'hui. Réunion sous la pression de la très puissante FIFA qui s'est déclarée choquée par cet incident tragique. L'enjeu est en effet de taille. Le Mexique doit normalement co-organiser le Mondial 2026 avec les États-Unis et le Canada. Mais la Fédération internationale pourrait changer d'avis, ce qui serait un drame pour ce pays fanatique de ballon rond.
Merci beaucoup Sébastien Legénis. Bien sûr, à demain pour Sous les radars. Ce soir, la programmation de Djoubaka est toute ukrainienne. Voici un groupe de Lviv, la ville frontière en face de la Pologne. Le groupe s'appelle Plash Yaramiyi. Et pour le titre, je ne peux rien faire, mais ça date de 2001. Écoutez.
Наводі, навіть кола по чистій воді, скоро минущі зелені кола. Навіть тоді, як нікого ніде ніколи, ніколи.
Originaire de Lviv en Ukraine, et merci à Djoubaga pour ce choix. Julia Foy, c'est là.
France Inter. Un jour dans le monde.
Julia, chaque semaine, vous nous donnez des nouvelles des femmes dans le monde, mais cette semaine, focus sur l'Ukraine une fois de plus, et sur celles qui, tous les jours, se battent contre l'invasion russe.
Avec une bonne dose de courage, de démerde et d'autodérision, souvent, comme pour cette jeune femme, Valérie, dont vous avez certainement vu passer des vidéos sur les réseaux sociaux, parce qu'elle tourne, elle tourne, elle tourne, cumulant parfois jusqu'à 22 millions de vues pour ce que la jeune femme filme et filme. Et filme tout et presque tous les jours. Les rues éventrées, les immeubles ravagés, ici un tas de gravats, là un cinéma dont il ne reste qu'un vague souvenir. La silhouette longiligne de Valérie nous emmène à sa suite dans les rues de Kiev et nous entraîne mine de rien dans la réalité brute d'une guerre devenue son quotidien. Elle a le visage pâle, mais le sourire en coin, l'œil affûté, l'ironie à portée de main, 20 ans, ou peut-être même moins. Elle est en tout cas de cette génération qui sait utiliser les codes des réseaux sociaux pour frapper fort et vite et juste, sans quitter l'apparente désinvolture avec ce qu'il faut de musique entraînante et d'émojis colorés. Comme toujours sur TikTok ou sur Instagram, ce sont les menus détails de sa vie qu'elle partage, mais avec elle, on apprendra à faire les courses dans un supermarché dont les rayons ont été vidés, à cuisiner des beignets au fromage de chèvre entre deux alertes à la bombe, ou encore à sculpter son corps dans un bunker. En fait, écrit-elle, je pourrais imprimer un poster de palmier, l'accrocher au mur derrière moi et vous dire que je suis aux Maldives. Bref, merci Poutine d'avoir piraté ma vie.
En revanche, l'invasion russe, ça fait basculer la sienne.
Celle d'Anastasia Lena, 24 ans, plus habituée aux selfies sur tapis rouge et aux poses glamour devant l'objectif qu'à ce type de message.
Hello, my name is Anastasia.
Bonjour, je m'appelle Anastasia Lena, je suis Miss Ukraine. Je suis née et je vis à Kiev. Il n'y a pas si longtemps, j'avais une vie normale, comme des milliards de personnes dans le monde. Je me réveillais le matin, je prenais un petit déjeuner, je faisais du sport, je voyais mes amis et ma famille. Mais du jour au lendemain, tout a changé.
Quelques jours après les premiers bombardements, Anastasia Lena postait une photo d'elle mitrailleuse en bandoulière. Oui, elle fait partie de ces milliers d'Ukrainiennes qui ont décidé de prendre les armes et de se battre sur le terrain. Sa petite particularité étant sa notoriété et sans doute aussi son physique que, même en temps de guerre, on ne lui pardonne pas. À chaque message qu'elle poste sur les réseaux pour appeler au soutien de l'Ukraine ou pour dénoncer l'offensive russe, c'est un petit précis de sexisme et de mauvais goût qui se déverse dans ses commentaires. Pour résumer, reste à ta place meuf, laisse les hommes, les vrais, faire des concours d'abdos avec des ours dans la neige. Ouais, ça circule aussi sur le Twitter ukrainien, Fabienne, j'y suis pour rien. Mais restons dans le sujet.
Allez, de l'autre côté de la ligne de front, justement, elles descendent dans la rue pour dire non à la guerre.
C'était un rassemblement organisé la semaine dernière à Saint-Pétersbourg, au milieu du cortège Yelena Osipova, militante pacifiste de la première heure, artiste peintre, âgée de 76 ans aujourd'hui. Elle a manifesté contre la guerre en Crimée, contre la guerre en Irak, mais également pour la libération des Pussy Riots. Bref, elle n'hésite pas, à chaque fois elle y va, à chaque fois elle est arrêtée et finit en garde à vue, comme ici sous les applaudissements de la foule. À la main, elle tient deux pancartes contre la guerre et contre le nucléaire. Emmitouflée dans une grosse écharpe béret noir sur la tête, elle semble si petite, si frêle face à ces deux policiers protégés, eux, par l'uniforme et le casque à visière. Elle se laisse embarquer. sans protester. Mais quelque chose nous dit qu'elle reviendra.
Quelque chose nous dit aussi, Julia, qu'elle aurait aimé ces images.
Comme un relais que l'on se passe des plus anciennes aux plus jeunes, nous sommes dans un bunker quelque part en Ukraine. Ici, un bébé pleure. Là, des hommes et des femmes s'affairent à bricoler un semblant de confort dans l'inconfort. On se débrouille avec la peur, on fait avec la promiscuité. Puis il y a cette petite fille, là, que vous entendez, juchée sur une sorte d'estrade et sa natte blonde et son gilet étoilé. Et cette petite fille qui se met à chanter. Et là, tout le monde se tait, tout le monde l'écoute. Будь хорошей девочкой для всех, закрой все чувства на замок, навечно. Ben on l'embrasse, hein, cette petite fille qui chante dans son bunker. On lui souhaite bien sûr le meilleur. Merci beaucoup à vous, Julia Foyce.
Fabienne Synthès, le 18-20.
Le monde d'après de Cyril Sauvageau. Cyril, on reparle ce soir du programme nucléaire iranien. Après des mois d'intenses négociations, un nouvel accord entre Washington et Téhéran semblait sur le point d'aboutir ces derniers jours. Mais l'invasion russe en Ukraine est peut-être en train de changer la donne.
Pour une simple et bonne raison, la Russie joue un rôle central dans ces négociations. Ça fait des mois et des mois que Moscou travaille d'arrache-pied avec les Européens, en collaboration avec Washington aussi, pour réussir à ressusciter l'accord sur le nucléaire iranien. Cet accord, rappelons-le, il date de 2015. Il est censé, grosso modo, empêcher Téhéran de se doter de l'arme atomique, mais il est mal en point depuis que Donald Trump a décidé d'en sortir en 2018. Les relations avec Téhéran se sont énormément dégradées ces dernières années. Il a fallu l'arrivée de Joe Biden à la Maison-Blanche et le travail de fourmi des négociateurs sous l'égide de l'AIEA, le gendarme nucléaire de l'ONU, pour renouer le dialogue et avancer pas à pas pour trouver un compromis. D'un côté, l'Iran s'engagerait à limiter de façon significative et vérifiable ses activités nucléaires et de l'autre, les États-Unis accepteraient de lever une partie des sanctions qui plombent l'économie iranienne. Fragile numéro d'équilibriste, mais de quoi peut-être enfin sortir de la spirale de tension de ces dernières années.
Donc voilà où on en était il y a quelques jours, mais samedi à Vienne, la Russie a décidé de renverser la table.
Il fallait s'y attendre, hein, vu le contexte de la guerre en Ukraine et l'isolement de Moscou. La Russie n'allait pas laisser passer l'occasion de faire monter les enchères. Les Russes, sanctionnés, boycottés, exclus de nombreuses instances internationales depuis 10 jours, ont en revanche toute leur place encore aujourd'hui dans cette négociation en particulier. Les Occidentaux ont besoin d'eux face à Téhéran. Et cela, le régime de Vladimir Poutine l'a bien compris. À Vienne ce week-end, le ministre des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a donc fait connaître ses exigences. La Russie demande à ce que sa coopération avec l'Iran ne soit pas entravée par les sanctions prises par les Occidentaux sur l'Ukraine, coopération économique et scientifique notamment. En tant que pays destinataire du stock d'uranium excédentaire de l'Iran, la Russie joue là aussi un rôle de premier plan et Moscou réclame donc désormais des garde-fous.
Alors, compte tenu des tensions avec Moscou, Cyril, est-ce qu'un accord reste possible ?
Eh bien, étonnamment, oui, c'est ce que veulent croire en tout cas les négociateurs. Ce soir encore, le Quai d'Orsay confirme qu'un accord est imminent, mais la France se dit préoccupée par les demandes russes qui risquent de retarder l'échéance. Même son de cloche à Washington, qui appelait ce week-end la Russie à ne pas tout mélanger. De fait, tout le monde a plutôt intérêt à ce que la négociation aboutisse, à commencer par les Iraniens, qui attendent beaucoup et qui espèrent beaucoup la levée des sanctions contre leur pays. Les Occidentaux auraient tout à gagner à ce que le pétrole iranien puisse être à nouveau exporté dans le monde. Un besoin d'autant plus pressant avec la flambée de l'or noir à laquelle on assiste en ce moment sur fond de guerre entre la Russie et l'Ukraine. Quant aux Russes, eh bien, s'ils obtiennent au moins en partie les garde-fous qu'ils réclament, un accord avec l'Iran pourrait peut-être leur permettre d'atténuer quelque peu l'effet des sanctions prises par les Occidentaux.
En tout cas, ce blocage sur l'Iran préfigure peut-être ce que pourrait être la capacité de nuisance de la Russie sur les grands dossiers internationaux dans les prochaines années.
Et oui, si la guerre avec l'Ukraine se poursuit ou s'envenime, si les sanctions très lourdes prises contre Moscou se prolongent, eh bien, il faut s'attendre à ce que la Russie actionne tous les leviers possibles pour perturber l'ordre international, pour déstabiliser les Américains et les Européens. Or, Vladimir Poutine a déjà avancé ses pions un peu partout depuis une dizaine d'années. En Syrie, évidemment, où l'armée russe dispose désormais de bases militaires permanentes. En Libye, un pays divisé, toujours en proie au chaos, 10 ans après la chute de Kadhafi. Et puis, en Afrique, que ce soit au Mali, au Mozambique, en Centrafrique, au Soudan. Les accords de sécurité signés par Moscou avec les régimes en place et l'intervention sur place des mercenaires russes du groupe Wagner, eh bien, ce sont autant de leviers pour Moscou, des terrains où la Russie est en mesure de renforcer son influence, de mener des actions de déstabilisation, autant de moyens de riposter à l'isolement imposé à la Russie par l'Europe et par les États-Unis.
Cyril Sauvageau et le monde d'après. Merci beaucoup Cyril, on est loin d'avoir fini, il nous reste encore 2 heures ensemble. Dans un instant, c'est le téléphone sonne. 1 heure avant le concert de solidarité avec l'Ukraine à la Maison de la Radio, on parlera de vos élans de solidarité. Dans un tout petit instant, bien sûr, il y a le journal d'Hélène Filly. À tout de suite.